Europe 1,
5h, 7h,
Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures en équilibre sur cet étroit filin tendu entre le journalisme et le musical burlesque. Une émission marquée par mon fiel, mais heureusement compensée par la bienveillance de mes consoeurs Everoc et Céline Dacosta. Bienveillance qui s'exprime chaque matin lorsqu'elle commente les physiques des présentatrices des chaînes info qui tournent en boucle dans notre studio.
On est d'accord qu'elle est fan d'Amy Winehouse, oui. Pour au niveau coiffure, au niveau
des dents aussi, ouais, des dents. Oulala, ouais, elle a les mêmes, hein. Toi qui picole moins, parce que putain.
On embrasse ces multiples présentatrices. Heureusement, Debout les copains, c'est aussi la tolérance de Fabrice d'Almeida. Le monsieur Histoire d'Europe 1 qui ce matin, 75 ans, jour pour jour et même heure pour heure, nous fait revivre ce qui s'est passé entre 6h et 7h, un certain 6 juin 44.
Merci d'écouter Europe 1 en ce 6 juin 2019. Il est 6h, très bon réveil. 5h, 7h, Mathieu Noël.
Tout ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce jeudi 6 juin. Bonjour Céline Kallmann.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin Céline.
Les commémorations donc du 75e anniversaire du débarquement des hier Emmanuel Macron, Theresa May et Donald Trump se sont joints à 300 vétérans pour les célébrations. Des dizaines de cérémonies sont prévues aujourd'hui. Europe 1 sera en direct de Normandie dès 7h avec Mathieu Béliard. Dans l'actualité également, Valérie Pécresse quitte les Républicains. Le constructeur Fiat Chrysler retire son offre de fusion avec Renault. Et puis le domicile de Gérard Collomb perquisitionné ainsi que la mairie de Lyon dans le cadre d'une enquête portant sur des soupçons d'emploi fictif. Enfin, Roland-Garros, pas de match hier en raison de la pluie. Rencontre prévue aujourd'hui à midi au lieu de 14h.
Europe 1.
6 juin 1944, il y a 75 ans, débutait l'une des plus grandes batailles de la Seconde Guerre mondiale, le débarquement en Normandie. Près de 3 millions d'hommes mobilisés, 12 nationalités différentes pour vaincre les Allemands, des Américains, des Canadiens et bien sûr des Britanniques. Première cérémonie hier à Portsmouth en Angleterre, sous les yeux du public. 255 vétérans britanniques sont montés à bord d'un navire de croisière pour refaire le même voyage qu'il y a 75 ans. Anaïs Cordoba.
Escorté par des navires de la Royal Navy et sur un air patriotique britannique, le MV Boudicca quitte le port. À son bord, 250 vétérans et leurs familles saluent la foule venue les applaudir en masse. Sur le rivage, Christine et Sharon ont les larmes aux yeux.
C'est très poignant, c'est magnifique pour ceux qui sont à bord ce soir, mais tellement triste pour ceux qui ne sont jamais revenus.
Quand ils sont arrivés de l'autre côté, ce qui les attendait, c'était effroyable. Aucun d'entre eux n'ont dû imaginer ce qu'ils allaient voir. Ils ont dit adieu à leurs proches ici, sans savoir s'ils les reverraient.
Il y a 75 ans, ces jeunes soldats quittaient Portsmouth pour les plages normandes, comme John Jenkins, 99 ans, débarqué sur Gold Beach le 6 juin 44.
J'étais terrifié, tout le monde était terrifié. On ne le montre pas, mais c'est là. Je m'en souviens comme d'un moment très important dans ma vie, ça m'a changé. C'est une bonne chose que le courage et le sacrifice de tant de soldats soient honorés 75 ans plus tard. Nous ne devons jamais oublier.
Certains de ces vétérans n'étaient jamais retournés en Normandie. Première étape pour eux ce matin, la cathédrale de Bayeux pour une messe anglicane. Portsmouth, Anaïs Cordoba, Europe 1.
Des dizaines de cérémonies sont prévues aujourd'hui. En fin de matinée, notamment Emmanuel Macron assistera à l'hommage prévu au cimetière américain. Donald Trump et son épouse seront évidemment présents devant 12 000 invités et plus de 150 vétérans. Europe 1 dès 7h sera en direct d'Aromanche avec Mathieu Béliard, tous nos envoyés spéciaux, Thierry Geffrotin, Laure d'Autriche. Ils vont vous faire vivre les célébrations de ce 75e anniversaire.
Dans l'actualité également ce matin, Céline, autour de Valérie Pécresse de jeter l'éponge.
Oui, la présidente du Conseil régional d'Île-de-France quitte les Républicains, l'a annoncé hier soir dans le journal de France 2, dénonçant un parti cadenassé de l'intérieur dans son organisation, mais aussi dans ses idées. Aurélie Herbemont.
On nous compare à Game of Thrones, je trouve que c'est plutôt Dallas, ironise un député. La droite et son univers impitoyable. Christian Jacob trouve ça incompréhensible et il n'est pas le seul. C'est grotesque, torpille un sarkozyste. Un jour, elle dit qu'à la place de Wauquiez, elle démissionnerait, il démissionne et elle part. Des parlementaires pro-Pécresse vont aussi rendre leurs cartes. L'un d'eux confie « Il me faudra un gilet pare-balles car je n'ai pas prévenu mes militants ». Commentaire laconique d'un dirigeant, c'est surréaliste. Un autre lâche, c'était le moment de prendre le pouvoir chez LR. Mais Valérie Pécresse dénonce un parti cadenassé. Selon un de ses amis, à cause de Wauquiez, il ne reste que des militants ultra. Impossible d'inverser la vapeur. C'est parce que personne ne pense à elle pour reprendre le parti, persifle un ténor. Valérie Pécresse quitte LR pour refonder la droite par l'extérieur. Et certains redoutent que le feuilleton ne soit pas fini.
Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1. Il n'y aura pas de mariage. Impatient, le constructeur Fiat Chrysler a retiré dans la nuit sa proposition de fusionner avec Renault. L'objectif était de former le numéro 3 mondial de l'automobile. L'engagement rapide du groupe français a trop tardé pour Fiat, qui a précisé qu'il restait fermement convaincu de l'intérêt de ce projet. Les services d'urgence plus que jamais en crise et le mouvement s'amplifie. Une manifestation nationale est prévue à Paris cet après-midi en attendant une rencontre avec la ministre de la Santé. Hier, l'Ordre des médecins a réclamé une concertation d'urgence pour que des décisions soient prises le plus rapidement possible. Par ailleurs, le syndicat Jeunes médecins a déposé une plainte contre X pour dénoncer la situation alarmante des urgences de Lons-le-Saunier dans le Jura. Une grève et de nombreux arrêts maladie ont nécessité des réquisitions de personnel.
Gérard Collomb sur la sellette à Lyon.
Oui, l'ancien ministre de l'Intérieur est soupçonné d'avoir fait profiter à son ex-compagne de plusieurs emplois municipaux. Son domicile ainsi que la mairie de Lyon ont été perquisitionnés, préjudice estimé à 600 000 euros. Les précisions de Rémi Pierre pour Europe 1.
N'ayant rien caché ni rien à cacher, je reste à la disposition de la justice. Par ces mots, Gérard Collomb clame donc son innocence après une journée éprouvante pour lui. Une journée débutée dès 6h30 du matin avec une première perquisition à son domicile, puis une seconde en fin de matinée à l'hôtel de ville de Lyon. Les deux policiers de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales seront restés en tout 8 heures dans les locaux de la mairie et se sont notamment attardés au service paye de la ville. Dans leur viseur, les bulletins de salaire et les contrats de travail de Myriam Nouri. L'ex-compagne de Gérard Collomb les enchaîne en effet depuis 1995. À l'époque, l'ex-ministre de l'Intérieur n'était que maire du 9e arrondissement. Depuis et malgré leur séparation, elle a enchaîné les postes dans différents services. Des emplois que ne conteste pas Gérard Collomb. Ce qu'il conteste en revanche dans ce même communiqué, c'est le timing de cette procédure judiciaire juste avant les municipales. La justice n'a jamais rien eu à me reprocher. Les Lyonnais le savent bien, conclut celui qui brigue un quatrième mandat. À Lyon, Rémi Pierre. Europe.
Le géant américain en ligne Amazon va prochainement livrer ses colis par drone, des drones entièrement électriques pouvant parcourir jusqu'à 25 km. Les colis ne devront pas peser plus de 2,3 kg. Le tout en moins de 30 minutes. Des premiers tests ont déjà été menés au Royaume-Uni et cela dès 2016.
Et si jamais le drone tombe en panne ?
Eh ben, j'en sais rien.
Et qu'il vous tombe sur la tête ?
Je ne sais pas.
Mais juridiquement, je ne sais pas si tout ça a été bien ficelé. Merci, c'était le journal de Céline Kallmann, ma douce, ma très douce et tendre Célinette. Céline, avec qui on se comprend à demi-mot par une simple intonation de voix un peu salace, comme hier, à propos du confort de la nouvelle salle de repos d'Europe 1.
En plus, t'as vu la salle de repos, elle est quand même pas mal.
Ah, la salle de repos est bien, c'est vrai.
J'aime beaucoup la salle de repos.
Elle est bien, hein, Céline, la salle de repos d'ailleurs. Mais surtout, surtout, la force de Céline, c'est de savoir me dire les mots qui m'excitent. Allez, dis-le, Céline.
Brownie.
Europe 1. 5h07, Mathieu Noël.
Il est fou, totalement fou.
Et de pire en pire.
Reprenons-nous pour ce qui suit. À suivre, c'est historique. Le fact-checking par l'histoire. Ce matin, 75 ans, jour pour jour, après le débarquement de Normandie, Fabrice d'Almeida nous fait revivre l'événement heure pour heure. Retour sur ce qui s'est passé le 6 juin, entre 6 et 7 heures.
Bon réveil à tous, il est 6h07 et il est 6h09, Mathieu Noël.
L'heure de faire un point sur la météo avec vous Céline, et aujourd'hui c'est un retour très provisoire du soleil.
Oui, mais il revient assez largement, il faudra en profiter avec des nuages, c'est vrai, mais ce sera beaucoup plus lumineux que ces derniers jours. Ce matin, on a encore un ciel couvert sur l'est, sur une frange est, mais ça va s'arranger cet après-midi, ciel couvert avec un petit peu de pluie, ça c'est le reste de la perturbation d'hier. Une nouvelle perturbation va arriver par la Bretagne en fin de journée, elle va apporter des pluies et c'est ce qui va nous apporter ce temps très agité demain. Orageux avec de bonnes rafales de vent. En attendant, c'est calme, on en profite. Des éclaircies, un grand soleil même près de la Méditerranée. Et puis, des températures doucement en dessous des normales de quelques degrés. 18 à 26 pour cet après-midi du nord au sud. Et puis ce matin, c'est frais par endroits. On est souvent même sous la barre des 10 degrés.
Merci Céline et Varoc.
Omaha Beach.
Bien,
Omaha Beach.
Vous l'avez bien prononcé. Voilà. Je dis bravo.
Merci beaucoup. Et pardon pour les petites bévues de tout à l'heure. On vous demande depuis ce matin 5h si vous avez déjà visiter des lieux mémoriels comme les plages du débarquement et dans quelles circonstances. Eh bien, Caroline nous a envoyé un message très touchant. Elle a été énormément marquée par la visite justement des plages. Comment imaginer que dans ce paysage de cartes postales, 7 décennies plus tôt, la mer était teintée du rouge du sang des hommes, nous écrit-elle. Ces tombes à perte de vue sont terriblement émouvantes. On se sent tout petit face à cette immensité. Et puis Jérémy qui habite à la Tranche-sur-Mer lui nous dit sur les plages de la région, eh bien, il reste de nombreux bunkers qui sont toujours présents évidemment pour nous rappeler cette guerre au quotidien. Merci pour tout vos messages sur Twitter.
Merci beaucoup.
Europe 1,
5h, 7h,
Mathieu Noël.
Plus qu'un journaliste, c'est un orfèvre des mots qui nous rejoint. Car Jérôme Lacroix a cette conviction chevillée au corps, l'auditeur mérite le meilleur. L'auditeur mérite Molière, Verlaine, ou à défaut, lui. Et dans le public de son journal des sports, il y a chaque matin au premier rang le grand fan de ces jeux de mots littéraires, Fabrice Dalméda.
Mais hier, après avoir écarté en quart de finale son compatriote Wawrinka, Roger Federer, non sans humour, a espéré en s'adressant au public que Nadal, le colosse, s'érode.
Très beau, très beau, très beau.
On passe au journal des sports. À la une, des averses et des zones d'ombre.
Va-t-on jouer aujourd'hui à Roland-Garros ? Les organisateurs espèrent très fort une météo clémente, sous peine de voir la programmation des matchs virer au casse-tête en raison d'une accumulation des retards. Hier, les quatre quarts de finale prévus n'ont pu se tenir. Il pleuvait, reporté à aujourd'hui. Premiers échanges dès midi au lieu de 14h. Les spectateurs qui avaient des tickets pour hier seront intégralement remboursés ou pourront accéder au site aujourd'hui avec leurs billets datés d'hier. C'est avant tout à eux que le directeur du tournoi, Guy Forget, pensé hier soir.
Vous savez, les joueurs et les joueuses, ils sont bien lotis, ils ont des repas chauds, ils ont même des endroits où ils peuvent dormir, ils sont avec leur famille, ils peuvent se faire masser. Ça fait partie du quotidien d'un joueur professionnel d'attendre parfois une demi-journée, une journée entière. C'est pas eux aujourd'hui qui me tracassent, c'est plus justement tous ces gens qui sont venus et qui rêvaient de cette journée à Roland-Garros et qui diront ben voilà, voilà notre souvenir de Roland-Garros. Ça, c'est un peu dur.
Et cela faisait 3 ans que toute une journée n'avait pas été annulée à Roland-Garros et c'est peut-être l'une des dernières fois. Le cours central doit être équipé d'un toit l'année prochaine. Au revoir de l'un des plus grands sportifs français, Thierry Omeyer. Le meilleur gardien de l'histoire du handball dispute ce soir avec le PSG le dernier match de sa carrière. Il s'en va les poches déformées par les médailles. 59 trophées, 10 avec les Bleus, dont 2 titres olympiques et 5 de champion du monde.
Le foot et les filles de l'équipe de France ont déménagé.
Exigence de la FIFA oblige, elles ont quitté Clairefontaine pour un hôtel à Rueil-Malmaison dans les Hauts-de-Seine. Elles ont été accueillies par les CP d'une école parisienne. Qui leur enchantait le désormais bien connu à ramener la coupe à la maison. Alors leur jour J à ces Bleus, c'est demain, match d'ouverture du mondial France-Corée du Sud au Parc des Princes, un stade dans lequel elles vont s'entraîner. Aujourd'hui, les garçons, eux, seront en Turquie où ils disputent samedi un match de qualification pour l'Euro 2020. Et ils ont bien prévu demain soir de regarder à la télé le match des filles. L'attaquant Olivier Giroud délivre quelques tuyaux pour le meilleur parcours possible.
Vraiment jouer à 100%. Et puis jouer bien sûr en équipe parce que c'est la cohésion d'équipe, la cohésion de groupe, l'état d'esprit qui va faire la différence au fil des semaines.
Et puis le Cristiano Ronaldo show hier soir. 3 buts inscrits avec le Portugal pour un succès 3-1 contre la Suisse. Les Portugais sont qualifiés pour la finale dimanche de la Ligue des Nations. Ce sera contre les Néerlandais ou les Anglais qui s'affrontent ce soir.
On termine, Jérôme, avec l'histoire du jour.
Sale nuit pour Neymar. La star brésilienne du foot s'est blessée en amical avec le Brésil. Touché à une cheville, il a quitté le terrain alors que la Copa América à domicile démarre vendredi de la semaine prochaine. Deuxième lame, cette nuit aussi, le témoignage à la télé brésilienne de la femme qui l'accuse de viol. Elle raconte qu'elle voulait bien, au départ, avoir une relation sexuelle avec le footballeur, mais qu'en l'absence de préservatif, elle ne voulait plus. C'est là que Neymar l'aurait violée. Le joueur nie en bloc.
Merci, c'était le journal des sports et un peu plus ce matin de Jérôme Lacroix. Jérôme qui, ces dernières semaines, s'est considérablement rapproché de Fabrice Dalméda, le monsieur Histoire d'Europe 1, dont la chronique succède toujours à celle de Gégé. Une amitié virile, pas très virile, qui inquiète beaucoup Céline Dacosta.
Oui, Jérôme, c'est toi. Non, tu n'as pas changé.
Je n'ai pas changé.
Tu es toujours celui qui m'a aimé.
Celui qui t'a aimé, oui.
Mais... Ça va, on ne vous dérange pas, les gars.
Bon, un peu de tenue, les gars. Bon, surtout à l'heure de passer à la rubrique histoire.
Europe 1.
Je vous ai compris.
Ich bin ein Berliner.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
C'est historique.
Bonjour Fabrice Dalméda.
Bonjour à tous.
Il y a 75 ans avait lieu donc le débarquement allié en Normandie. Et si on se projetait exactement au même moment, entre 6 et 7 heures du matin, on en était où exactement ?
Eh bien le soleil venait tout juste de se lever à 5h58. Il éclairait les côtes de Normandie sur lesquelles depuis une heure pleuvait une nuée de bombes. Dès 5h en effet, la flotte de guerre s'était placée au large pour détruire les positions de défense allemande le long du littoral. Et vers 6h, justement, les soldats américains de la première vague d'assaut sur les plages d'Utah Beach et d'Omaha Beach commencent à embarquer sur les barges. Parmi eux, des hommes du génie, dont le rôle est de détruire le vaste réseau d'obstacles qui empêche l'approche des grosses péniches de débarquement de matériel. Et évidemment, des combattants, dont les vétérans de la Big Red One, la première division d'infanterie qui avait déjà fait les débarquements en Afrique du Nord et en Italie.
À quelle heure touche-t-il le sol de France ?
Ben à 6h29, les premières barges touchent Omaha Beach. Pendant la traversée, les hommes ont espéré que le bombardement est efficace, mais en ouvrant à l'avant pour sauter sur les plages, ils découvrent l'horreur. Les servants des mitrailleuses et des canons allemands ont attendu pour mieux liquider les Américains au moment où ils sont le plus vulnérables. Bref, à 6h35, la couleur de l'eau vire au rouge. C'est là que naît l'expression « Bloody Omaha ». Et quelques minutes plus tard, une radio allemande commence à faire circuler l'information alors que les Alliés gardent encore le secret.
Et à quel moment les Alliés ont su que le débarquement était réussi ?
Bien après 7h du matin, car à 9h15, ils hésitent à abandonner Omaha. Mais enfin, à 9h30, Eisenhower, le général en chef américain, lance un communiqué annonçant le débarquement. La victoire devient possible.
Merci beaucoup Fabrice Delmeda. L'histoire à la rescousse de l'actualité. On vous retrouve demain peu avant 6h15.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Debout les copains continue, 2 heures d'actu et d'invités pour la commenter aujourd'hui. 75 ans jour pour jour après le débarquement. L'actu, c'est évidemment les commémorations de ce tournant décisif de la Seconde Guerre mondiale. Avant la matinale spéciale de Mathieu Béliard en direct d'Aromanche à partir de 7h, on se rafraîchit la mémoire sur le déroulement de cette opération cruciale avec Alia Aglan, historienne spécialiste de la Seconde Guerre mondiale.
Il est 6h19, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Après Laurent Wauquiez, c'est au tour de Valérie Pécresse de quitter les Républicains. La présidente de la région Île-de-France a annoncé sa démission hier soir sur France 2. Le domicile de Gérard Collomb et la mairie de Lyon perquisitionné hier matin dans le cadre d'une enquête sur de possibles détournements de fonds publics au profit de son ancienne compagne. Enfin, toute la pluie tombe sur eux. Roland Garros, il n'y a pas eu de match hier après-midi en raison de la pluie. Les 4 derniers quarts de finale ont été annulés et reportés à aujourd'hui. Le temps devrait être plus clément.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Voici pour les titres de ce jeudi 6 juin et l'actualité, ce sont aussi évidemment les commémorations du 75e anniversaire du débarquement. Dès 7h, Mathieu Béliard sera en direct d'Aromanche. L'ensemble de la rédaction d'Europe 1 se mobilise pour une matinale spéciale avec des témoignages et des reportages exceptionnels. Bonjour Alia Aglan.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin en direct sur Europe 1. Vous êtes historienne, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale. Le 6 juin 1944, les Alliés débarquent en force et par surprise sur les plages de Normandie alors que les Allemands les attendent dans le Pas-de-Calais. C'est le début d'une gigantesque opération militaire. Ma première question est probablement d'une naïveté confondante, mais 156 177 soldats répartis sur 4 126 navires, comment ce débarquement a-t-il pu être surprise ?
Il a été surprise parce qu'il y a une énorme opération de déception, enfin, comme on dit en termes militaires. C'est-à-dire que les Alliés se sont évertués, c'est l'opération Fortitude, à organiser un leurre gigantesque.
Ah, c'est ça.
En faisant...
Deception au sens anglais, de tromperie.
Voilà,
quoi.
Voilà, un leurre stratégique qui a fait croire que Patton, le général Patton, avait réuni dans le sud de l'Angleterre, mais plutôt vers, en face du Pas-de-Calais, une énorme armée d'un million d'hommes. Alors, ils ont pris des décors de cinéma, ils ont fait des bruitages, ils ont fait des faux blackouts, ils ont fait bombarder des meules de foin. Enfin, ils ont organisé en son et lumière le rassemblement colossal d'un million d'hommes. Et alors, tout ça, c'est agrémenté de cadavres qu'on trouvait sur les plages d'Espagne avec des papiers qui donnaient une fausse information. Ça s'appelle de l'intoxication.
Incroyable.
C'est Fortitude et c'est un énorme leurre.
Et alors je comprends le leurre, enfin vous l'expliquez très bien, donc on comprend qu'ils aient pu mordre à l'hameçon, mais en revanche,
oui.
Comment cacher les 156 000 soldats, les 4 126 bateaux dont je parlais, parce qu'ils existaient aussi, ils se préparaient aussi à cet endroit-là. Et pourquoi il n'y a pas d'espions allemands qui les découvrent ?
Mais parce que c'est absolument secret, cette opération de débarquement, et même la résistance intérieure n'est pas au courant de l'heure. Quand on dit, voilà, il y a des messages qui annoncent le débarquement, c'est des messages qui déclenchent les plans de sabotage. Et il n'y en a pas un seul, il y en a, je sais pas, une bonne centaine, parce que les résistants intérieurs ont préparé, au moins depuis le printemps 1944, des plans violets, plans tortues, de sabotage, des nœuds de communication. Et si vous voulez... comme dans la guerre, la ruse est quand même, depuis Sun Tzu, la chose la plus importante, les Allemands ne déplacent pas leurs troupes et se concentrent sur le Pas-de-Calais parce qu'on pense assez logiquement que c'est le chemin le plus court.
Oui. C'est le plus court. Eva Roch ?
Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une journée de commémoration comme celle qu'on va vivre aujourd'hui quand on est historienne comme vous ?
Alors, personnellement, j'en attends pas.
Je crois qu'elle connaît bien l'événement. Hein. Je ne pense pas qu'elle va apprendre de nouvelles choses aujourd'hui.
On apprend toujours des nouvelles choses parce qu'en fait, des témoins qui n'ont jamais parlé ou qu'on n'a jamais entendu, non, c'est toujours intéressant. Mais je trouve que ça nous apprend plus sur le présent que sur le passé. Parce qu'évidemment, on ne commémore pas tout du passé. Par exemple, les viols de soldats al-Dejiais en, en Normandie, où voilà, il y a eu des procédures, des tribunaux militaires qui ont fait comparaître certains soldats pour vol et diverses exactions de la soldatesque depuis toujours. On n'a pas, c'est pas ça qu'on commémore. Donc on prend du passé ce qu'on veut commémorer, c'est-à-dire quand même une intervention alliée de très grande envergure et qui a été un prélude aux opérations de libération en Europe. Aujourd'hui, c'est un message sur le présent qu'on veut. On souligne d'ailleurs l'absence de Poutine, par exemple, alors que l'armée rouge a quand même œuvré pour la libération du continent.
Encore une question naïve, c'est ma spécialité. Aujourd'hui, le 6 juin 1944, forcément dans l'imaginaire général, c'est on l'associe à la libération. Enfin, c'est, mais le 6 juin 1944, même si le débarquement est réussi, on est encore loin de la libération. Il y a encore énormément de... Il y a un doute ou c'est vraiment un déclic. Et à ce moment-là, les états-majors savent en tout cas que la partie est gagnée.
Alors, ils ne peuvent pas savoir que la partie est gagnée le 6 juin, parce qu'ensuite, il y a la bataille du Bocage. Les Alliés piétinent dans le Bocage au moins jusqu'à fin juillet.
Ça aurait pu mal tourner, quoi, pour nous.
Ça aurait pu très mal tourner. Et d'autre part, on a tendance à oublier l'énorme pression de l'armée rouge sur le front de l'Est. C'est l'opération Bagration, qui est lancée le 22 juin, et qui va fixer des divisions allemandes sur le front de l'Est. Mais le débarquement, la libération, on l'attend au moins depuis novembre 1942, depuis l'opération Torch, quand les Alliés débarquent en Afrique du Nord. Bon, évidemment, on est un peu déçus, en France en tous les cas, que ce ne soit pas directement sur le territoire, même si l'Algérie, c'est 3 départements français, mais ce n'est quand même pas la métropole. Et donc, on attend avec impatience, en tous les cas, la résistance attend avec impatience les opérations de libération. Et donc, le débarquement a entraîné ce qu'on appelle la montée vers les maquis, puisqu'il y a eu des messages de la BBC qui appelaient les jeunes gens à rejoindre les maquis. Et alors, quand on rejoint le maquis, c'est pas très discret, hein, quand c'est en masse. Bon, donc, ensuite, on voit très bien, si on regarde les chiffres de la répression contre la résistance intérieure, après le 6 juin 1944, c'est un pic de répression. On a parlé des fusillés de la prison de Caen.
Caen. Mmh.
Voilà. Mais ensuite, les exécutions sommaires et les représailles contre les civils, de Oradour, Tulle, c'est quand même une conséquence de l'environnement de guerre.
Un dernier mot, Alia Hagan. Est-ce que c'est important, au-delà de... Alors évidemment, on peut commémorer en vous écoutant. C'est important de se rendre sur place, les plages de Normandie. Qu'est-ce que ça apporte de se rendre sur place? On perçoit mieux ce qui s'est passé?
Alors nous, avec l'Université de Paris 1, on a emmené les étudiants l'année dernière sur les plages de Normandie. Oui, ils se rendent sur place parce que tout ce qu'on peut étudier en histoire de la guerre, en stratégie ou histoire de l'occupation, ne se visualise que sur place. Alors même si aujourd'hui les plages sont désertes, magnifiques, et on peut être pris par la très belle lumière, on spatialise en fait des événements qu'on a étudiés. Et ce qui est le plus émouvant, en fait, c'est les cimetières militaires. Pour moi, c'est moins les plages que les cimetières militaires, où on voit quand même ces alignements.
On a une idée du nombre, voilà, on se rend compte.
La masse de morts. Et si on cumule les morts côté allié, côté allemand et côté civil, on est à presque un demi-million de morts. Pour ce seul événement du débarquement en Normandie.
Merci infiniment, Alia Hagan, d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes historienne spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, auteur avec Robert Franck de 1937-1947, La guerre monde chez Gallimard. Merci.
Europe 1, il est 6h27, Mathieu Noël.
Debout les copains continue avec le journal du magicien de l'info, David Doucan, puis la météo avec une journée plus calme qu'hier, des éclaircies et de nouvelles pluies qui arrivent par la Bretagne.
Il est 6h29, Mathieu Noël.
Oui, alors Céline, on peut roche-maser, mais on peut aussi se pencher sur la météo.
C'est
intéressant aussi. Et aujourd'hui, ça va jouer à Roland-Garros. Hein.
Effectivement, le temps sera plus calme et normalement pas de pluie. Donc on ne va pas être embêté comme hier. On va pouvoir jouer à Roland-Garros et c'est tant mieux. Le pays des éclaircies sur l'ensemble du pays, il reste un petit peu de pluie, un tout petit peu sur l'est, une frange est du pays ce matin. C'est le reste de la perturbation d'hier. Et en ce qui concerne les pluies, toujours, on en aura de nouvelles. Mais en fin de journée, sur le nord-ouest, partout ailleurs, nuages, éclaircies et température un petit peu fraîche pour la saison ce matin. 18 à 21 degrés pour la moitié nord cet après-midi. 20 à 26 pour la moitié sud.
Merci Céline.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures d'infos teintées d'une douce allégresse qu'on doit en partie à de cocasses détournements sonores, même si parfois, à force de détourner des sons, j'ai conscience de briser des gens, voire des couples. Je pense notamment au Dacosta, couple jadis fusionnel, désormais en plein délitement par la faute de mes cruelles insinuations. Pour vous dire, même des journalistes d'Europe 1 comme Sébastien Guillot ont du mal à distinguer ce qui relève de la réalité et de la fiction. La preuve l'autre jour.
C'est ça l'information, t'es toujours avec ton mec, parce que quand on entend le 5-7, moi j'ai l'impression qu'il y a une liaison entre David et toi.
Avec Jérôme.
Avec Jérôme aussi.
Ah bah Jérôme Lacroix, c'est la grande histoire.
Mais David aussi.
Ah mais David, c'est dragouille, mais il se passe rien. Alors que Jérôme, à part, enfin, je veux dire, c'est la grande histoire.
Avec l'actu vous paraîtra heureusement beaucoup plus simple que la vie sentimentale de Céline. Politique, économie, médias, chaque matin, les trois fantastiques vous livrent de l'actu une vision unique, la leur. Aujourd'hui, on évoquera le gouvernement qui mise tout sur l'écologie en ce mois de juin. Et Varrox se demandera s'il faut, oui ou non, supprimer l'ENA.
Vous écoutez Europe 1, il est 6h30. 5h-7h, Mathieu Noël.
Le journal de 6h30. Bonjour David Doucan.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin David.
6 juin 1944, 6 juin 2019, il y a 75 ans, le débarquement, la bataille qui a sorti le monde de la nuit nazie. Voilà ce qu'on commémore aujourd'hui. Emmanuel Macron est arrivé à Caen dès hier. Il a rendu hommage aux 80 résistants français fusillés en représailles. Reportage dès le début de ce journal. La crise des services d'urgence, mouvement social depuis la mi-mars, des manifestations sont prévues aujourd'hui. Comment en est-on arrivé à ce niveau de mal-être et d'épuisement des personnels soignants? Les explications de notre spécialiste dans un instant. Et puis le psychodrame continue à droite. À la surprise générale, Valérie Pécresse a annoncé qu'elle quittait les Républicains pour la présidente de la région Île-de-France. Le parti est cadenassé de l'intérieur.
Europe 1.
Une journée, quelques heures, pendant lesquelles le sort du monde bascule dans un sens ou dans l'autre. C'est rare. Des journées comme celle-là. Le 6 juin 1944, 150 000 soldats ont débarqué sur les plages normandes. Ils enclenchaient l'irrémédiable chute du régime nazi. Voilà ce que l'on commémore aujourd'hui. Mais les nazis ne sont pas tombés sans combattre, ni même sans commettre davantage de crimes, comme à la prison de Caen le 6 juin. En représailles, ils exécutent 80 résistants français, 80 assassinats dont Emmanuel Macron a voulu se souvenir hier lors d'une cérémonie devant la maison d'arrêt. L'or d'Autriche était là pour Europe.
Devant les portes de la prison ont été accrochés les portraits des résistants, fusillés ici il y a 75 ans. Ce 6 juin 1944, alors que les alliés approchent des côtes normandes, 80 résistants sont fusillés sur ordre de la Gestapo. Leurs noms sont égrenés les uns après les autres et leur profession, toutes les classes sociales, étaient représentées dans la résistance.
Cheminots, employés de banque, employés à la préfecture du Calvados.
Cultivateurs, docteurs en médecine. Courtier en assurance.
Des enfants de 10 ans entonnent le chant des partisans. Emmanuel Macron salue l'implication de la résistance intérieure.
Cette alliance des forces alliées venant du monde entier, de notre résistance intérieure et des militaires français qui ont permis de libérer le pays. Je crois qu'il ne faut oublier aucune de ses composantes.
En 1944, 80% des renseignements qui ont été fournis aux alliés ont été fournis par la résistance française. Sans la résistance, le débarquement n'aurait peut-être pas eu lieu en Normandie, expliquent des historiens. Il aurait même peut-être tout simplement échoué. À Caen, lors d'Autriche, Europe 1.
Et vous le savez, matinale spéciale à partir de 7h, Mathieu Béliard sera en direct des plages normandes, témoignage, interviews, nos reporters partout en direct. Nous vivrons ensemble cette journée exceptionnelle. Rendez-vous donc à partir de 7h avec Mathieu Béliard, matinale spéciale sur Europe 1. Le projet de rapprochement entre Fiat et Renault aura fait long feu. Fiat a retiré cette nuit sa proposition de fusion. En cause, l'État actionnaire français qui avait demandé un peu de temps pour convaincre Nissan de voter en faveur de l'alliance. Le constructeur italo-américain Fiat Chrysler a perdu patience et a précisé dans un communiqué que les conditions politiques n'étaient actuellement pas réunies en France. Que se passe-t-il dans nos services d'urgence? Voilà maintenant bientôt 3 mois que les personnels soignants sonnent l'alarme. 3 mois qu'ils sont en grève dans plusieurs dizaines d'établissements. Une manifestation nationale est prévue à Paris cet après-midi. Comment en est-on arrivé là? Pourquoi ce mouvement dure-t-il aussi longtemps? Les explications de Mélanie Gomez.
Pour expliquer le niveau de tension actuel dans les services d'urgence, il n'y aurait pas un seul fautif. Selon le syndicat SAMU Urgence de France, c'est en fait la faute à tout le monde. D'abord, affirme son président, aux urgentistes eux-mêmes qui ont longtemps cru qu'ils étaient des surhommes. La faute aussi, dit-il, à certains généralistes qui partent en vacances à Noël ou pendant l'été en laissant sur leur répondeur l'adresse des urgences. Et puis, la faute aux patients, qui débarquent trop souvent aux urgences pour de mauvaises raisons. Environ la moitié de ceux qui s'y présentent pourraient en fait être soignés autrement, par un généraliste ou dans un autre service, en attendant quelques jours de plus. Enfin, ces professionnels pointent évidemment du doigt les autorités de santé. Selon eux, il faut tout revoir pour que les urgences ne soient plus le supermarché de la médecine. Mais déjà, pour passer l'été, ils réclament des mesures immédiates comme l'interdiction pour les hôpitaux de fermer des lits dans d'autres services, sinon ils le disent, aux urgences en juillet-août, c'est sûr, il y aura des morts.
La spécialiste santé d'Europe 1, Mélanie Gomez. Le parti est cadenassé de l'intérieur dans son organisation, mais aussi dans ses idées. Ce sont les mots de Valérie Pécresse hier aux 20h de France 2. Voilà comment elle explique sa décision de quitter les Républicains. Un acte qui a surpris et même pris de court des responsables politiques, toujours sonnés par la défaite des Européennes. Le parti s'enfonce donc encore davantage dans la crise. Écoutez la réaction du député Daniel Fasquelle, manifestement dans l'incompréhension.
C'est une immense surprise et une immense déception. Valérie Pécresse faisait partie de ceux qui demandaient le départ de Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez a démissionné. Il y a une nouvelle étape qui s'est ouverte dans la reconstruction des Républicains. Et il y avait toute sa place. Ce qui est certain, c'est qu'en créant autant de partis politiques qu'il y a de présidentiables, la droite ne met pas toutes les chances de son côté pour pouvoir un jour reprendre les rênes du pays. Et la démarche qu'elle a choisie, c'est une démarche qui va complètement à l'inverse de ce qu'a toujours prôné et défendu Nicolas Sarkozy. J'aime beaucoup Valérie Pécresse, mais je ne pense pas qu'en prenant la décision sur ce point, en tous les cas, elle puisse se dire l'héritière de Nicolas Sarkozy.
Daniel Fasquelle avec Aude Vernuccio pour Europe 1.
À suivre dans ce journal, la fraude à la Sécu. On a souvent entendu qu'elle s'élevait à 14 milliards d'euros, un chiffre astronomique, mais un chiffre faux. Ça se chiffre en réalité seulement, entre guillemets, en millions. C'est ce qu'affirme un rapport du Sénat publié hier. À tout de suite.
Il est 6h37. Il est 6h38. Mathieu Noël.
La suite du journal, David Doucan. Vous nous parlez de l'ampleur des fraudes à la Sécurité sociale.
Oui, parce que l'on entend depuis quelques semaines qu'elle s'élève à 14 milliards d'euros, montant astronomique. D'abord relayé sur les réseaux sociaux en pleine crise des Gilets jaunes, puis repris par Nicolas Dupont-Aignan dans sa campagne européenne. Problème, ce chiffre est faux. Très largement surestimé, selon un rapport sénatorial publié hier. Olivier Samin.
Pas 14 milliards, entre 200 et 800 millions d'euros tout au plus. Et encore, ça c'est si tous les cas suspects qui ont été identifiés sont réellement liés à une fraude au numéro de sécu. Sachant que très souvent, ce ne sont que des erreurs liées à un extrait d'acte de naissance mal traduit ou à des pièces d'identité mal scannées. Et l'on découvre, après vérification, que le demandeur est dans son droit pour obtenir une immatriculation à la Sécurité sociale française et peut percevoir des prestations. L'auteur du rapport, le sénateur Jean-Marie Van Lorenberg, le dit quand même, ce n'est pas une raison pour enterrer le sujet, car même peu nombreuses, les fraudes existent et doivent être combattues. Le fait pour une personne née à l'étranger de pouvoir faire sa demande par Internet rend possible les falsifications.
Vous pouvez scanner votre extrait d'acte de naissance, votre carte d'identité, votre titre de séjour et tricher sur votre photo, sur le numéro, sur la date.
D'où l'une des préconisations du rapport. Dès qu'une suspicion apparaît, exigez que l'inscription à la Sécu se fasse en présence physique du demandeur et à partir de documents originaux.
Olivier Samin du service économie d'Europe 1. C'est une alternative au retrait de permis et cela marche. L'installation d'un éthylotest au démarrage pour les conducteurs condamnés pour alcool au volant. Aujourd'hui, cette sanction est appliquée dans 50 départements test. Le ministère de l'Intérieur a décidé de généraliser à tout le pays. Reportage dans l'Essonne, Roman Oquet.
En Essonne, où depuis janvier, un tiers des accidents mortels est dû à l'alcool, on a décidé de tenter cette alternative à la suspension de permis.
SVP soufflé.
Un éthylotest anti-démarrage.
Entre 5 et 30 minutes de façon aléatoire, on va vous demander un second test pour éviter simplement qu'au démarrage, une autre personne souffle en lieu et place du conducteur.
Une contrainte de 6 mois, voire un an, pour garder sa voiture et son indépendance, selon le préfet Jean-Benoît Albertini.
Souvent, la sanction immédiate, qui était celle de la suspension de permis, pouvait s'accompagner d'effets très importants sur la vie professionnelle. Et avec cette solution, nous avons la possibilité de conserver la peine, mais de l'aménager.
Ici, 3 conducteurs sur 4 interpellés pour alcoolémie pourraient en bénéficier. Et pour le délégué à la sécurité routière, Emmanuel Barbe, le dispositif a déjà fait ses preuves dans d'autres départements.
Entre 40 et 50% des arrêtés donnent lieu véritablement à une installation, puisque ça reste un choix pour les personnes. D'ici la fin de l'année, le système sera dans toute la France.
Une généralisation aussi pour baisser le coût de l'appareil. 100 euros par mois aujourd'hui à la charge du conducteur.
Reportage signé Romano, qui est pour Europe 1.
Merci, c'était le journal de David Doucan, un journaliste brillant, talentueux, mais surtout facile. Si facile.
Bon, alors, qu'est-ce qu'on a dans l'actu? Parce que j'ai pas regardé, là, je découvre.
Céline, si seulement vous pouviez préparer votre météo aussi vite qu'il prépare son journal,
c'est
on gagnerait un temps considérable. Alors aujourd'hui, c'est une journée de transition.
Oui,
qu'est-ce à dire?
C'est vrai, eh ben, c'est-à-dire qu'on va avoir des éclaircies. D'ailleurs, vous voyez, par les fenêtres du studio, on voit le soleil qui commence à se lever.
C'est magnifique.
Ça fait du bien, parce que c'est vrai qu'hier, la journée a été très grise et
est très pluvieuse et ça va être comme ça un petit peu sur tout le pays. Alors il reste un petit peu de nuages, de pluie même hein, sur une frange est, mais ça va s'arranger cet après-midi. On aura une nouvelle perturbation alors, qui va arriver en fin de journée sur le nord-ouest, hein, Bretagne, Pays de la Loire, Cotentin, qui va s'étendre jusqu'à la Normandie. Et cette perturbation qui va arriver, elle va nous apporter un temps très nuageux, très orageux, très pluvieux demain. En attendant aujourd'hui, transition, on profite.
De la journée, de cette éclaircie magnifique qui vient d'entrer en studio. Est-ce le soleil ou Aurélie Herbemont qui nous a rejoint pour les utopiques?
C'est moi.
Je ne sais pas, probablement les deux. Merci.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Et maintenant Céline.
À la cantoche.
Ah non, non, pas tout de suite, patience, il y a d'abord les trois fantastiques. Politique, économie, médias, ils nous entraînent dans les coulisses pour mieux démasquer les tartuffes. Ce matin, de quoi donner des regrets à Nicolas Hulot, voilà que le gouvernement a décidé de tout miser sur l'écologie en ce mois de juin.
Bon réveil à tous, il est 6h42. Il est 6h45, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Grande journée de commémoration, on célèbre en Normandie le 75e anniversaire du débarquement du 6 juin 44. Emmanuel Macron accueille notamment Donald Trump. Journée de souvenirs mais aussi de diplomatie dans un contexte délicat. Le président américain remet en effet en cause le principe du multilatéralisme dont le chef de l'État français s'est au contraire fait le champion. Le psychodrame continue à droite. À la surprise générale, Valérie Pécresse a annoncé qu'elle quittait les Républicains. Pour la présidente de la région Île-de-France, le parti est cadenassé de l'intérieur. Enfin, tous les matchs ont été annulés hier à Roland-Garros en raison de la pluie, mais le sport reprend ses droits aujourd'hui avec les 4 quarts de finale, donc le choc Novak Djokovic Alexander Zverev. Attention, premiers échanges dès midi et non 14h.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Ils sont l'honneur journalistique de cette station. C'est comme si Federer, Nadal et Djokovic jouaient en triple. Voici les trois fantastiques. Eva Rock pour les médias, Aurélie Herbemont pour la politique, Axel de Tarlé pour l'économie. Et vous êtes nombreux à vous poser la question, comment Axel de Tarlé trouve-t-il encore le temps de s'informer entre tous ces directs qu'il doit assurer à la radio, à la télé et tous ces déjeuners avec les patrons du CAC 40? Eh bien, il a une astuce qu'il nous révélait hier, une astuce qui concerne les podcasts.
J'écoute les interviews politiques et en accéléré j'écoute. Ah bah du coup, tu te fais un grand rendez-vous en 20 minutes. Laurent Berger, vous avez dit le 8 mai.
Vachement malin, il est rusé notre accès. Il est rusé.
Écouterait en accéléré.
Mais c'est fabuleux de vous écouter en mode rapide. Néanmoins, on commence par la politique avec vous, Aurélie Herbemont. Après le succès des écologistes européennes, l'exécutif se met au vert ce mois-ci, Aurélie Herbemont. Tiens,
oui.
Tiens.
Et le gouvernement veut que ça se voie. Avant-hier, premier déplacement post-européen d'Édouard Philippe. Sur quel sujet? La lutte contre le gaspillage dans les prochains jours. Mise en route de la Convention citoyenne. Vous savez, c'est cette promesse d'Emmanuel Macron post-grand débat. 150 personnes tirées au sort qui vont plancher sur la transition écologique. Tous les ministres n'avaient pas l'écologie dans leur ADN initial, reconnaît un conseiller ministériel. Désormais, le sujet revient en boucle. On doit accélérer sur l'écologie. Il nous faut des résultats concrets sur l'écologie. Et devinez quoi, quand Édouard Philippe fera son discours de politique générale mercredi, ce sera un des points importants, pas juste une phrase, nous assure-t-on. Et puis tout à l'heure, Brune Poirson réunit des Instagrammeurs et Youtubeurs pour leur présenter son projet de loi sur l'économie circulaire, manière d'utiliser ses relais auprès des jeunes, car juste avant les européennes, un ministre s'en désolait. Les jeunes sont sensibilisés à l'écologie, mais ils ne votent pas. On n'arrive pas à leur parler. Sauf que Yannick Jadot, lui, a réussi à leur parler et à les faire voter.
Tout ça n'est pas sans arrière-pensée, on imagine.
Alors, après avoir pulvérisé le PS, dynamité LR, on sent que les 13% des Verts sont dans le viseur. L'exécutif martèle qu'il fait de l'écologie depuis le début et regrette un procès en insincérité, nourri par la démission de Nicolas Hulot, il faut le dire. On prend les bonnes idées, qu'elles viennent de droite, de gauche ou des Verts, assume un conseiller. Mais du côté des écolos, même pas peur. Ils paniquent, mais les gens ne sont pas dupes, tranche une élue. Rien de ce qu'ils font n'est à la hauteur de l'urgence.
Merci beaucoup pour cette analyse, Aurélie Herbemont. On passe à l'économie avec vous, Axel de Tarlé, le roi du podcast. Bruxelles enclenche une procédure contre l'Italie pour déficit excessif. La France, elle, est épargnée, alors que son déficit est plus important.
Ah oui, ça, il y a de quoi énerver en Italie, parce que l'Italie affiche cette année un déficit de 2,4%. Elle est punie par Bruxelles, alors que la France, elle, affiche un déficit de 3,1%, donc vous voyez, supérieur à l'Italie, mais la France est épargnée. Alors pourquoi est-ce que c'est la Commission européenne qui en voudrait à Matteo Salvini? Alors en fait, Bruxelles, d'abord, regarde les chiffres de 2020. Et en 2020, là, la situation est inversée. C'est l'Italie qui a un déficit plus élevé. Mais enfin, quand même, grosso modo, ce sont des comptes d'apothicaire. Et avec la France et l'Italie, on a là deux pays qui sont quand même notoirement connus pour avoir des déficits excessifs. Néanmoins, entre ces deux pays, il y a une différence fondamentale. Et c'est pour ça que l'Italie pose problème et pas la France. Quelle est cette différence fondamentale? c'est que la France est un pays dynamique, un pays où il y a de la croissance économique et où il y a de la démographie dynamique. L'Italie, c'est tout le contraire. C'est un pays qui est totalement à l'arrêt. C'est un pays qui a zéro croissance et une démographie qui baisse. Et si vous voulez, quand vous avez des déficits et des dettes et que vos revenus augmentent, bah, tout va bien, on se dit vous allez vous en sortir. Mais quand vous êtes dans le cas de l'Italie, vous avez des déficits et des dettes et que vos revenus ont tendance à baisser, eh bien là, ça devient problématique. Alors, quand ça, c'est à l'échelle d'un pays, on ne dit pas revenu, on dit PIB. Mais donc, si vous regardez, dette sur PIB de l'Italie, déjà, ils partent de très haut, ils sont à 132%. Mais comme le PIB ne progresse plus, chaque année, ce ratio dette sur PIB se dégrade. L'année prochaine, ils vont passer à 134, puis à 136%. Alors qu'en France, oui, notre dette augmente. Mais notre PIB augmente aussi. C'est pour ça que le ratio dette sur PIB, il ne bouge pas. On reste sous les 100%, vous voyez. Et donc finalement, c'est pour ça que la situation de la France est bien plus saine. Vous voyez, merci les Italiens, parce que finalement, quand on se compare avec l'Italie, on se dit que la situation de la France en matière de dette et de déficit n'est finalement pas si explosive que ça. Vous pouvez réécouter cette chronique en accéléré. Et comme ça, vous aurez gagné 30 secondes.
Voilà, vous aurez gagné 30 secondes, c'est pas mal. Merci beaucoup, Axelle de Tarlé. Elle est diplômée de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence et c'est elle qui pose la question, peut-être par jalousie, faut-il supprimer l'ENA ?
Ah, c'est vrai, c'est une bonne entame, vous avez raison. C'est le titre du documentaire, surtout, que vous pouvez voir sur LCP ce soir à 20h30. Alors, si vous pensiez que la volonté d'Emmanuel Macron de supprimer l'ENA était une idée récente, eh bien, écoutez bien ce petit florilège d'archives et de réflexions.
Hier, nous avons parlé de la polémique. L'ENA est-elle l'école du pouvoir ?
L'ENA, accusée de symboliser la rupture entre le pouvoir et les citoyens.
Décidé de proposer une réforme profonde de l'État qui commencera par la suppression de l'École nationale d'administration.
Et en ce qui me concerne, comme vous savez, je ne suis ni énarque ni agrégé. Ça me permet de ne pas être démagogue.
Et voilà, c'était Nicolas Sarkozy en dernier, vous l'aurez reconnu. Alors LCP se penche donc sur le fonctionnement de cette école créée en 1945. Alors à travers les portraits de trois étudiants qui sont venus de milieux extrêmement divers et puis qui donnent la parole également à d'anciens élèves de Nathalie Loiseau, à Chantal Jouanneau, en passant par Denis Oliven. Conçu pour démocratiser l'accès à la fonction publique, l'ENA est devenue quand même une fabrique à élite, coupée des réalités du monde, à en croire les plus critiques. Adeline Baldaccino, qui est ancienne élève et auteure de La Ferme des Énarques, est d'ailleurs très claire sur le fonctionnement de l'école.
Les cours, en réalité, qu'on reçoit à Paris ou à Strasbourg, c'est d'une banalité confondante. Vous trouverez, je crois, à peu près aucun énarque pour vous dire qu'il a appris quoi que ce soit pendant cette période de cours. C'est au mieux une redite de Sciences Po en moins bien et en obsolète, et au pire, une série de banalités déversées par des hauts fonctionnaires qui sont là entre deux rendez-vous et entre deux trains et qui n'ont pas eu le temps de préparer quoi que ce soit.
Je rappelle que c'est une ancienne élève qui parle. Hein. Bon.
C'est dingue.
Alors, si les cours. Et alors, elle, c'est pas la seule à partager ce sentiment. Les cours semblent ne pas être satisfaisants pour une partie des intervenants de ce documentaire. Tous, en revanche, reconnaissent que les stages représentent la meilleure des formations. Au fond, chacun s'attarde s'accorde à reconnaître que former les fonctionnaires, et notamment les hauts fonctionnaires, est une nécessité, mais qu'une réforme à la fois du recrutement et de l'enseignement est indispensable. C'est un documentaire qui est très classique dans sa construction, je vais y arriver, mais qui a le mérite de multiplier les points de vue et de donner la parole à des intervenants qui, chacun à sa façon, permet d'avancer dans la réflexion. Très bon documentaire. Faut-il supprimer l'ENA ? LCP 20h30.
Merci beaucoup Eva pour ces conseils télé. Merci Aurélie Herbemont, Axelle de Tarlé. L'équipe des Trois Fantastiques sera de retour demain aux alentours de 7h moins le quart. Céline, vous avez bien écouté tout ce qui s'est dit ce matin ou bien vous avez encore regardé Top Chef en loose day sur votre ordi ?
Ah, c'est une barnaise ça, non ? Bah, si c'est une mayonnaise, elle est ratée. Hein.
Bon, bah, vous réécouterez en podcast.
5h-7h, Mathieu Noël.
Debout les copains s'apprêtent à céder le micro, non pas à Nikos Aliagas ce matin, mais à Mathieu Béliard. Passage de micro métaphorique, puisque Mathieu nous attend ce matin en direct d'Aromanche, où il vous concocte une matinale spéciale 6 juin 44, à l'occasion évidemment des 75 ans du débarquement, avec des reportages inédits de la rédaction d'Europe.
Il est 6h56, Mathieu Noël.
Debout les copains touche à sa fin, l'heure est venue de céder la place, non pas à Nikos Aliagas ce matin, mais à Mathieu Béliard, pour une matinale exceptionnelle en direct d'Aromanche, à l'occasion des 75 ans aujourd'hui du débarquement de Normandie. Europe 1 se mobilise pour vous faire vivre les commémorations et retracer ce jour J qui a changé le cours de l'histoire. Une matinale un peu spéciale, mais je vous rassure, tous vos repères ne seront pas bousculés. Vous retrouverez comme chaque matin la précision météorologique de Laurent Cabrol.
Voilà, ce qu'il faut retenir une chose, c'est qu'à tout moment, vous risquez d'avoir de la pluie, sous une forme ou sous une autre, et puis que, il faut s'en référer un peu à la chance.
Voilà, c'est la chance qui vous guidera. Je pense qu'avant de se lancer sans filet dans une grande matinale en direct ce matin, c'est bon de savoir qu'on peut compter sur la précision de ses chroniqueurs.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.